Attention, vous êtes sur le point de pénétrer dans une zone de forte turbulence musicale. Chronique, rétrospective, thématique. Bienvenue dans Metal Advisory, le podcast explicite 100% métal.
Je suis désolé, c'est assourdissant.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Metal Advisory, le podcast explicite 100% métal. Et là, eh ben, il est question de métal aujourd'hui, parce qu'en abordant un groupe comme Fear Factory, qui parle de la guerre ancestrale entre humains et machines, eh ben, les machines, les trois quarts du temps, elles sont en métal. On est complètement raccord avec le titre de l'émission, le genre et de quoi ça parle. C'est fantastique. Donc, petit voyage en l'an de grâce 1994. Alors, pour ceux et celles qui connaissent Fear Factory, ils sont en train de se dire, mais ils parlent de l'année 94, alors que le groupe a été fondé en 1990. Mais l'idée derrière ça, c'est de vous parler de la manière dont j'ai pu être confronté à, on va dire, ce mur de son qu'est Fear Factory, et notamment leur album, leur chef-d'œuvre, voilà, la masterpiece de leur discographie, qu'est Des Manufactures. Donc, et ben voilà, moi, dans mes années de lycée, l'année 94, alors plutôt fin collège, début de lycée pour moi, l'année 94, frontière 94-95, c'est quand même des uppercuts musicaux, coup sur coup, tous les mois, quasiment. Et c'est vrai que, noyé au milieu d'un Suicidal for Life, de Suicidal Tendencies, d'un Far Beyond Driven de Pantera, d'un Burn My Eyes de Machine Head, et ben débarquer. Donc cette usine de la peur, ce Fear Factory, avec cette pochette ultra vénère représentant un code barre, et ce code barre est formé à partir, et ben de quoi ? D'os de côte humaine, en fait, voilà. Donc on a un visuel très très nerveux, et c'est vrai que je remets ça en place, même si j'avais pu à l'époque laisser traîner mes oreilles du côté du death metal, du brutal death metal, donc j'avais déjà écouté des choses hyper bourrines, comme par exemple Cannibal Corpse, comme Death, voilà, le groupe fondateur du Death Metal. Et effectivement, rien ne m'avait préparé à cette déferlante façon marteau-piqueur. Donc ça, c'est la batterie de Raymond Herrera. Cette fameuse double pédale en mode monomaniaque martelée, le PBM très élevé. Alors, on va dire que les haters, les haters vous diront que, bien entendu, cette batterie, voilà, ce marteau-piqueur, cette double pédale très spécifique de Fear Factory est souvent le fruit d'une boîte à rythme en studio. Alors, ça sera le cas pour les quasiment les derniers albums du groupe, mais sachez quand même qu'au départ, même si c'est recalé à l'enregistrement, le Raymond Herrera est quand même connu pour tenir ses fameuses batteries. Ces fameuses parties de batterie en live. Alors, moi, je ne l'ai pas vérifié, mais des amis à moi qui avaient... d'ailleurs, je fais un coucou à un ami du lycée. S'il écoute ce podcast, il se reconnaîtra, qui est d'ailleurs batteur lui-même, hein, un peu comme le R Général qui était venu, qui était intervenu ici même dans Metal Advisory, qui reviendra quand ses multiples groupes lui laisseront le temps d'intervenir sur un sujet qu'il aime bien. Mais en tout cas, ce bro du lycée qui était batteur, bah ça l'avait marqué aussi, hein, cet album de Fear Factory. Il avait voulu vérifier ça assez rapidement en live, D'ailleurs, c'est aussi un petit vénard qui a eu la chance aussi de voir le Pantera originel en live. Moi, j'ai jamais eu cette chance-là. Et il a même des photos avec feu d'Imbac Darrell. Donc, autant vous dire quand même que c'est pas rien. Donc, voilà. Donc, en cette année 94, donc... Ce qu'il faut comprendre, c'est que une boîte d'édition, donc une maison de prod comme Roadrunner, n'arrête pas d'envoyer du lourd en cette année 94. J'ai même, alors c'est entre 94 et 95, le Mataleao de Biohazard, voilà, qui débarquait. Donc Roadrunner Records, c'est quand même les Sepultura aussi. Donc on envoie du très très lourd, donc au niveau de la prod. Et c'est vrai que chaque sortie est quand même marquante et se démanufacture, et ben on l'avait pas vu arriver, voilà, tout simplement. Donc quelle est la particularité d'un groupe comme Fear Factory? Alors là où nous avons par exemple, alors, le métal est assez folklorique parce que il y a toujours différents sujets de prédilection, j'arrive à le prononcer. Donc autant sur des groupes comme qui sont les prémices du néo-métal comme Rage Against the Machine ou autre, on va y parler de points de vue politique, d'injustice, de mouvements sociaux. Le Néo, Korn, Deftones et consorts ou Linkin Park vont, ou même Limp Bizkit, voilà, il faut les citer aussi, vont prendre aussi le côté harcèlement au collège, les histoires d'amour, etc. Plus un côté personnel, vécu, le tiraillement, etc. Mais les groupes illustres de métal, tels que, si on prend la New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden, Judas Priest, parlent souvent de démons, de l'enfer, de grands combats contre les forces obscures. Si on prend notamment Manowar, voilà, hein, des gars musculeux, enfin en tout cas sur les pochettes, hein, qui affrontent des forces ancestrales, Creator, c'est pareil aussi. Donc le thrash metal, le death metal, c'est souvent du zombie, du monstre, des forces démoniaque, etc. Et c'est vrai que, petite nouveauté, donc on peut dire qu'ils étaient précurseurs sur le genre, Fear Factory sont quand même les premiers à parler, à te faire finalement la BO de Terminator. Donc c'est-à-dire que leur fonds de commerce, c'est l'IA, enfin on n'appelait pas ça l'IA à l'époque, ou plutôt le droïde, l'intelligence robotique qui veut détruire l'humanité, ou qui a détruit l'humanité, ou qui va détruire l'humanité, hein, ça dépend de la temporalité de l'album. Donc leur fonds de commerce, c'est de te dire attention, la technologie c'est méchant, c'est pas bien, la technologie veut te détruire. Donc un groupe qui est formé en 1990, donc si on remet un petit peu du coup l'église au milieu du village, ou l'hôtel de ville, ou ce que vous voulez, la boulangerie même, tiens, remettons la boulangerie au milieu du village, effectivement, le premier Terminator de Cameron, voilà, ça va être 84, et va arriver Terminator 2 en 92. Donc, on sent quand même dans ce changement qu'ils auront entre leur premier album et ceux des manufactures, l'impact du Terminator 2 de James Cameron, et d'ailleurs, c'est quand même une faute professionnelle qu'aucun des réals d'aucun Terminator, hein, que ça soit tant Cameron que les autres, n'ait utilisé Fear Factory en bande-son, parce que ça s'y prêtait. Il faut quand même noter que tous les films de SF, ou les films, en tout cas, si on prend par exemple le côté James Cameron dans Terminator 2, ce qu'on y entend, c'est You Could Be Mine de Guns N' Roses, donc un titre qui, au moment où le film sort, est quasiment daté, en fait. Voilà. Et si on regarde bien, l'ami Schwarzenegger, qui a toujours été fan plus ou moins de hard rock, etc., va faire appel à AC/DC pour Last Action Hero avec le titre Big Guns, mais effectivement, aucun de ces, que ça soit Schwarzenegger ou des réals, n'ont pensé à utiliser Fear Factory. À noter quand même, dans ces acteurs, on ne sait pas forcément, qui aiment bien le métal, on a aussi Jim Carrey. C'est pour ça que dans un truc aussi con que Ace Ventura, c'est pour ça qu'on y voit Cannibal Corpse, parce que Jim Carrey est un grand fan depuis tout temps de Cannibal Corpse. Voilà, comme quoi, vous l'avez... Alors, je sais qu'il y en a qui ne le savaient pas forcément, voilà, vous prenez la tête de Jim Carrey, vous mettez Cannibal Corpse, sens où vous mélangez, vous imaginez la scène. Donc effectivement, c'est pour ça que lui, il avait fait des pieds et des mains pour avoir Cannibal Corpse, notamment dans Ace Ventura, ce qui n'a rien à voir avec la choucroute, hein, si on voit le contexte du film. Donc effectivement, si on regarde les choses sur Fear Factory, ça compose à chaque album la bande-son du prochain Terminator, et ça n'a jamais été utilisé. Et donc ça, c'est quand même un petit peu abusé. Seul fait de guerre, parce que je vais être, on va dire, exhaustif, enfin, du moins, je vais essayer de l'être, hein. Autant je vais être subjectif dans ma appréhension de la discographie, autant je vais être essayé d'exhaustif, objectif, sur le côté bande originale. Par contre, effectivement, un des titres de Des Manufactures, c'est-à-dire Zéro Signal, va se retrouver sur la bande-son du premier Mortal Kombat au cinéma, oui, celui avec Christophe Lambert, où ça crie très très fort Mortal Kombat dès le générique sur fond d'électro. On aura ce titre de Fear Factory sur la bande-son de ce qui sera un carton de l'été, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le Mortal Kombat de Paul Anderson était un carton à l'époque, c'était pas prévu, ça a été produit pour entre 30 et 50 millions de dollars, pas plus, et ça en a rapporté le quadruple, donc ça avait été une bonne affaire à l'époque, et ça avait mis aussi sur le devant de la scène cette fameuse bande originale. On n'oublie pas aussi, il faudrait que j'ai prévu de faire un épisode de Metal Advisory sur les grandes bandes originales entre guillemets typées metal. Il faut pas oublier aussi que pour vendre des albums, les groupes se positionnaient aussi soit en composant des titres spécifiques pour des films qui sortaient l'été, ou des films attendus, mais c'était souvent sur l'été, il me semble. Donc, ils proposaient des titres, soit ils en composaient spécifiquement, et ça permettait aussi d'élargir un petit peu son public. Voilà, si le film marchait, forcément, les gens achetaient la bande originale. Donc aujourd'hui, c'est quasiment... ça a quasiment disparu, cette histoire. Moi, je réfléchis. À part les grands compositeurs, hein, quand on pense à du Zimmer et des choses comme ça, il y a très peu de bandes-son de groupes qui fonctionnent. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a complètement disparu. C'est dommage, hein. Parce que ça faisait partie aussi, parce que ces groupes-là, on les entendait dans le film, hein. Si on prend l'exemple du The Crow d'Alex Proyas, quasiment toute la bande-son, on va dire composée par les groupes, et les groupes sont présents à l'écran ou utilisés à l'image. Donc voilà, c'est l'un des rares films, il y en a quelques-uns qui utilisent ça, mais c'est l'un des rares films où tout est présent à l'écran et que ça sert à la narration. Voilà, petite parenthèse refermée sur ces bandes originales. Bon, alors... Fear Factory, c'est qui, c'est quoi, ça débarque quand ? Donc Fear Factory s'est fondé au début des années 90, 1990 pour être précis. Le pedigree, c'est quoi ? Donc moi, je vais découper cet épisode de podcast en trois grosses parties, une quatrième, hein, pour la fin des opérations, parce que c'est un bordel aujourd'hui, hein, l'histoire de Fear Factory, enfin en tout cas l'histoire actuelle, en enlevant les ressorties et les albums de remix, hein, parce que c'est un groupe qui fera des albums de remix, on a 10 gros albums. Voilà, on a 10 gros albums qui jalonnent, donc on est en 90, on est en 2024, 34 ans de carrière. Voilà. C'est pas rien, 34 ans de carrière, hein, c'est plutôt costaud. Bon, alors, comment on pourrait classifier le genre de Fear Factory ? On pourrait... ce qui serait très facile, c'est de dire que c'est du métal industriel. Et c'est ça, en fait. Hein, c'est du métal industriel. Moi, je dirais métal industriel hyper vénère. C'est quand même hyper vénère, notamment au niveau de la batterie. Voilà, c'est ça qui donne le ton, hein, dans Fear Factory. C'est batterie gratte. Voilà. Après, le chant de Burton Sebel vient se greffer dessus. Mais c'est vraiment ce côté... hyper, alors c'est en termes de technique de guitare, c'est palm mute tout le temps. Voilà, donc c'est qu'on étouffe les cordes et c'est syncopé, voire martial, parce que la batterie va délivrer un PBM très élevé et la gratte va se positionner en fait sur la guitare. La gratte va se positionner sur la batterie. Soit ça se positionne sur la batterie, soit la batterie met en place quelque chose et la gratte se positionne entre les morceaux syncopés de batterie et ainsi de suite. Donc on a un rythme hyper martial, matraqué, métronomique qui va connoter le côté machine en fait. Hein, voilà. Donc et on verra que c'est aussi un peu le drame, hein, j'ai pas trop spoilé, hein, c'est un peu le drame aussi de Fear Factory, c'est-à-dire que un groupe où son fond de commerce c'est de dénoncer en fait l'impact des machines sur le genre humain, qui en fin de carrière utilisera les machines pour fabriquer quelque chose d'humain, c'est-à-dire un album. C'est à peu près ça. Parce que le dernier album, voilà, dernier album, c'est une créature de Frankenstein, le truc. Hein. Donc, le Burton Sebel s'est barré. Il n'y a pas trop de batteurs. Donc, du coup, c'est une boîte à rythme. C'est vraiment un truc fabriqué de briques et de brocs et de bout de ficelle avec un financement participatif, c'est un enfer, hein, le dernier album. Hein. C'est même un tour de force que ça sonne comme un album. Hein. Donc voilà, donc métal industriel, donc déjà, quelles sont les sources d'inspiration du groupe? Alors, quand on dit métal industriel, au commencement, parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre, au commencement, hein, on va pas citer du Prong, du Static X, parce que tout ça arrive après, voilà, ou même du Rob Zombie, voilà, parce que Rob Zombie, c'est que, qu'on le veuille ou non, il y a un fond de commerce, il y a un fond de roulement qui est le métal industriel. Les deux influences majeures de Fear Factory au départ, c'est Ministry et Nine Inch Nails. Alors, plus Ministry que Nine Inch Nails, parce que Nine Inch Nails, c'est indus les premiers albums, après ça part dans une autre direction. Alors que Ministry a toujours conservé cette espèce de voix transformée, utilisation des vocodeurs dans tous les sens. Hein. Al Jorgensen, le leader, voilà, la voix de Ministry, c'est une voix très spécifique et très, très trafiquée en post-prod et même en live. Hein, voilà, c'est un peu l'équivalent de ce que fait. Oui, il est toujours bon ton, ici même à Metal Advisory, de citer du Mike Patton. C'est un peu ce que fait Mike Patton avec ses petits gris-gris sur scène pour transformer sa voix dans ses multiples side projects. Donc voilà, grosse influence et Ministry. Et puis après, sur la lourdeur, la vitesse et la violence, c'est le death metal. Voilà. C'est pour ça que leur premier effort qui débarque du coup en 92, qui s'appelle Soul of a New Machine, donc l'esprit, l'âme d'une nouvelle machine, bah c'est un album qui est très death. Voilà, donc c'est un album qui est très death. Alors, ne partons pas dans tous les sens. Donc, déjà, c'est qui, c'est quoi Fear Factory. Donc, on a dit c'était quoi, maintenant c'est qui. Alors, on va avoir Burton Sebel au chant. Et Burton Sebel a cette particularité, quand sa voix n'est pas trafiquée, et quand il tient bien, on va dire, les positions aériennes, d'alterner une voix plutôt typée brutal death grind avec des passages un peu plus aériens. Et cette mixture entre, globalement, j'hurle et je chante, c'est un petit peu la base de toute cette vague de metalcore actuelle. Parce que le metalcore, voilà, en termes d'influence, doit beaucoup à Fear Factory. Voilà. Donc, un groupe, par exemple, comme Evanescence aussi, doit à Fear Factory. Sauf qu'eux, ils font appel à deux chanteurs spécifiques, en fait. Voilà. Donc, il y a la chanteuse qui va faire les voix symphoniques, et l'autre qui va hurler à côté. Donc, ce côté de j'hurle et je chante, voilà, c'est plutôt Fear Factory qui le met en place très rapidement au début des années 90, et ça va influencer tout ce qui va être metal prog, metal symphonie, metalcore, etc. C'est vraiment eux qui sont à l'origine de cette mixture entre j'hurle et je chante, ce qui est aussi quelque part la base du néo-métal. Voilà. Donc Fear Factory, ça débarque en 90, c'est un petit peu aussi quelque part les prémices d'une certaine forme de structure de néo-métal. Rappelez-vous toujours, il vous suffit d'écouter un seul titre de Face No More de l'album Angel Dust, qui est Moll Practice, et vous avez toute la structure du néo, en fait, de tout un courant musical. Donc très rapidement, donc on a Burton Sebel au chant, on va avoir Dino Cazares. Alors souvent il a été appelé, moi je me rappelle que ça soit à la fois dans le magazine Art Force ou Hard and Heavy, les deux magazines que je lisais à l'époque, ou même quand on le retrouve un petit peu maintenant sur les blogs en ligne ou dans des podcasts, on l'a toujours appelé, oh, c'est pas très très bien quand même, c'est la grossophobie, on l'a toujours appelé le gros Dino, voilà, Dino Cazares. Alors, il est pas si gros que ça, hein, si on prend un groupe comme Porno for Pyros, où il y a que des gros, le Dino, il est pas gros, mais ça rime un peu, le gros Dino, voilà, ils aiment bien avancer ça. C'est lui le gratteux en titre, c'est lui qui est à l'origine de la couleur musicale de Fear Factory. Bon, après, c'est une fois qu'ils ont trouvé la formule, vous allez voir qu'on va pas trop dévier de ce truc-là. C'est un peu à l'image d'un groupe comme AC/DC ou comme Slayer. Hein. Donc voilà, donc Dino Cazares à la guitare. Christian Old Volbers à la basse, qui arrivera pour l'album des Manufactures. Il n'est pas présent sur Soul of a New Machine. Et Christian Old Volbers, eh ben, alors de mémoire, je ne sais plus s'il est suisse ou belge, mais en tout cas, il est francophone. Et c'est pour ça que c'est grâce à lui qu'on a eu beaucoup d'interviews dans les magazines que j'ai cités, comme Art Force, Hard and Heavy, et qu'on a pu approcher ce groupe américain de plus près, en tout cas nous la France, plutôt que d'autres groupes, voilà, où on n'a pas d'éléments francophones à l'intérieur. Et pour la batterie, j'en avais déjà parlé, Raymond Herrera. Et les trois qui forment le groupe à l'origine, c'est Burton Sebel, Dino Cazares et Raymond Herrera. Donc ça, c'est vraiment la structure même du groupe. Et la force aussi, c'est que vous voyez bien qu'on n'a qu'une seule guitare. Donc ça veut dire que cette espèce de son cisaillant, ce mur du son rythmique qu'on prend dans la tronche, autant vous dire que dès le départ, en tout cas, bon, à l'époque, quand on est au milieu des années 90, c'est l'apparition des premières stations Pro Tools, donc on imagine déjà que ça va doubler le son de gratte, non pas à l'enregistrement, mais plutôt sur la timeline d'assemblage. Mais dites-vous bien que pour obtenir le son qu'a Fear Factory, même si on rajoute des cordes à la guitare, parce que bien entendu, Dino Cazares sera adepte de la 7 cordes, là, dites-vous bien que les parties de guitare, elles sont doublées, c'est obligatoire. Pour obtenir un son aussi puissant, c'est obligatoire. Même un Maiden qui a trois guitaristes, alors c'est pas le même type de métal, mais même un Maiden qui a trois gratteux, quand on les voit, on va se baser sur le côté son scène, ça envoie pas aussi lourd que ce qu'envoie Fear Factory. Donc autant vous dire que c'est doublé, triplé, voire quadruplé à l'enregistrement. Voilà. Donc à noter qu'avant de faire ce premier effort de 92 chez Roadrunner, ils ont déjà produit une démo qui sera qui ressortira un peu plus tard pendant une période un petit peu de respiration du groupe en 2002 sous le nom de Concrete. Donc cette première démo, sachez qu'elle a été produite par Ross Robinson. Et oui, Ross Robinson, le producteur officiel du néo metal, à qui l'on doit le son de Korn, la première démo de Deftones, à qui l'on doit Slipknot. Donc j'en passe et des meilleurs, c'est lui qui a fabriqué le son du néo, et ce son se fait toujours avec des guitares accordées très bas. Voilà. Donc c'est pas étonnant qu'on le retrouve, bien entendu, du côté de chez Fear Factory. Donc ça débarque en 92 avec un premier album. À noter, j'ai pas mis d'extrait de cet album là. Alors c'est un album que j'avais pas forcément écouté à l'époque et que j'ai réécouté aujourd'hui, et c'est pas un album auquel j'accroche. Alors j'ai pas dit qu'il était naze, etc. C'est trop linéaire, c'est très death, c'est très greencore, c'est très bourrin, il n'y a pas beaucoup de titres qui se détachent, donc c'est en mode parpaing, donc je peux comprendre qu'on puisse aimer, mais ça m'a pas emballé plus que ça. Ce que j'ai pu noter, c'est qu'on y voit apparaître quelques passages lyriques et aériens qui donneront le Fear Factory qui arrivera bien entendu 3 ans plus tard. À savoir que Fear Factory, notamment pour Des Manufactures qui arrive en 94 et Soul of a New Machine, c'est quand même produit par Colin Richardson, et Colin Richardson, c'est un peu le producteur de l'époque. Donc on lui doit le Burn My Eyes de Machine Head, Sepultura, pas mal d'albums de Sepultura, du Napalm Death, donc ça c'est du grindcore en provenance du Royaume-Uni, du Creator, du Cannibal Corpse, et pour varier un peu les plaisirs, du Bullet for My Valentine qui est du metalcore. Donc c'est pas étonnant au final que par rapport à tout ce que je vous ai cité sur l'influence de Fear Factory, que des groupes de metalcore utilisent le producteur d'origine des manufactures. Voilà. Donc, ce Soul of a New Machine est un album qui les fait connaître, qui leur permet de tourner dans des festivals. Donc, le bouche à oreille est plutôt intéressant, et c'est vraiment en 93 que se passe quelque chose, en fait, dans la tête du quatuor dirigeant l'usine de la peur. C'est qu'ils produisent un album de remix. Voilà. Donc ça, c'est aussi une tendance qui était dans les années 90. Alors, je vais pas vous mentir, le métalleux de base, le trashot, comme on l'appelait dans les années 90, a toujours fui le remix. Parce que pour lui, le remix, c'était synonyme de musique électronique, de programmation, de gens qui jouent pas en live, donc et de repasser à la caisse pour un truc qu'on avait déjà, mais en moins bien. Donc voilà, le remix, ça avait pas bonne réputation à l'époque, et c'était un moyen aussi pour Fear Factory de faire un lien avec leur côté électronique. Et c'est par la rencontre avec Rhys Fulber, du groupe de Metal Indus Frontline Assembly, qu'il remixe tous les titres de Soul of a New Machine, et que Rhys Fulber amène, voilà, un côté un peu plus aérien, un peu plus épique, des respirations, et on va dire une couleur supplémentaire à Fear Factory, qui va permettre à Fear Factory d'obtenir une recette j'ai envie de vous dire, inégalable, et qui va être sa marque de fabrique. Donc effectivement, autant cet album Fear is a Mind Killer n'est pas forcément un album, à recommander, mais il est important dans la carrière du groupe, parce que c'est là que leur amène l'idée de mélanger nappes de synthé, sample, voilà, à leur musique ultra bourrine, donc de caler ce côté électronique, ce côté programmation, en fait, qu'on va retrouver aussi chez Marilyn Manson, hein, parce que j'ai oublié de le noter, hein, mais Marilyn Manson, à la base, au départ, c'est du metal indus. Hein. Donc, de coller ça à leur musique, et c'est comme ça que débarque cette claque en 1994, qui s'appelle Des Manufactures. Des Manufactures, comme je l'ai déjà annoncé, pour moi, dans ma culture métal, et je pense que dans la culture métal de beaucoup de gens, c'est un album en référence. Et c'est ça qui est top. C'est-à-dire que il y a dans chaque genre des albums références, des groupes références, et c'est vrai que là, pour le coup, Fear Factory réussit l'exploit en un album, c'est quoi ? C'est d'enfoncer le travail de Ministry et Nine Inch Nails. Ce qui n'est pas rien quand même, hein, en un seul album, et de pousser le métal industriel dans des contrées beaucoup plus éloignées, et tout en étant beaucoup plus cohérentes. Donc c'est-à-dire que dans cette... parce que de toute façon, ça sera le plot dans chaque album. Hein. Parce qu'à chaque fois, de toute manière, la communication du groupe est toujours la même, c'est-à-dire que ils vont vous dire qu'à chaque fois, c'est un album concept où on y raconte une histoire d'une lutte contre les machines. Bon, quand t'as entendu ça une fois, au bout de 10 fois, t'as compris que au final... on est juste sur une formule qui est recrachée. Donc, mais dans cette logique de raconter la fin d'une civilisation, l'émergence, en fait, d'une nouvelle forme d'intelligence, qui soit une intelligence robotique, etc., de mélanger du sample, de la prog, avec tout un mur de sons issus du métal traditionnel, ça a du sens. Ça amène de la cohérence à l'ensemble. Et effectivement, on se dit, mais oui, il fallait avoir l'idée. Et cette mixture, cette tambouille, d'autres l'avaient tentée, mais elle n'a jamais aussi bien marché que sur cet album Des Manufactures. Donc moi, j'ai ouvert ce podcast avec les premières notes du titre éponyme Des Manufactures, la première track. Déjà, ça pose un petit peu les bases. Et là, je vous ai remis un autre titre. Alors, on pourrait tous les mettre, hein, y a rien à jeter hein, sur cet album. Et effectivement, je pense que le problème de cet album, c'est sa qualité. Et c'est un problème pour le groupe. C'est-à-dire que leur meilleure partition, ils l'ont sorti au deuxième album. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire qu'ils sortent leur meilleur effort quasiment d'entrée de jeu. Comment vous voulez faire mieux derrière ça, en fait ? C'est un petit peu le même problème qu'a eu Slayer avec Rain in Blood, sauf que Rain in Blood, il y avait quelques albums avant, et en fait, tous les grands groupes ont eu ce même problème. Metallica, c'est pareil aussi. Donc mais on va dire que comme on est dans quelque chose d'ultra spécifique, autant quand on est dans le cas de Metallica avec du trash qui est juste synonyme de vitesse, mélodie, on peut explorer d'autres zones. Slayer, c'est pareil, peut explorer d'autres zones, c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, cette formule-là, qui est quoi ? Qui est, c'est-à-dire sample, programmation, métronomique, chant scandé, hurlé, puis aérien, comme la formule est ultra précise, ça va être très très compliqué de pouvoir proposer quelque chose de différent sans se mettre à dos la fanbase, donc je vais pas spoiler pour le reste des albums, mais c'est très très compliqué. Mais bon, restons sur ce côté des manufactures. Ce qui force le respect déjà, si on écoute le premier titre, le titre éponyme, c'est qu'on va avoir toute la marque de fabrique de ce nouveau Fear Factory qui va s'installer pendant une décennie, qui est quoi ? C'est-à-dire des passages, des intros samplées, avec une atmosphère en fait. C'est presque horrifique, mais quasi industriel. On va avoir des bruits de son métalliques, ambiance vraiment, quand on écoute ça, on a vraiment l'impression d'être dans l'usine qui fabrique les T-800 dans Terminator. Et après arrive très rapidement une batterie, mais martelé à vitesse grand V, on est sur un PBM, donc battement par minute, qui est équivalent à celui de l'électro-hardcore de l'époque, hein, qu'on pouvait avoir dans des compilations comme Thunderdome ou autre, donc on est sur quelque chose d'ultra agressif, sur lequel viennent se greffer des guitares pas le muter en mode cisaille. Donc l'image qu'on peut avoir quand on écoute ces parties de guitare, c'est d'avoir une disqueuse en fait qui jouait de la guitare, voilà, ça découpe comme ça. Donc c'est des parties bien tranchées de guitare et tranchantes. Et dessus vient se poser une voix qui va alterner tantôt des moments aériens, tantôt des moments très violents façon grindcore. Donc là, on va chercher plutôt au niveau de la voix du côté Napalm Death. Bon, moi, c'est vrai que quand j'avais écouté cet album-là, je me posais la question si humainement c'était tenable en live. Bon, après, certains m'ont confirmé, pour avoir vu Fear Factory en live, que le Burton Sebel, bon, il trafique un peu la voix dans les passages un peu grind, et dans les moments aériens, il tient pas. Mais bon, après, on va pas lui en tenir rigueur non plus. C'est comme si je disais, je vais voir un concert de Ministry, et Al Jourgensen, il est derrière son micro avec 10 000 vocodeurs. Bon, ça fait partie du délire, voilà. Il y a quand même le côté, entre guillemets, vocaliste qui est présent mais un petit peu trafiqué, bon c'est pas grave, on va lui pardonner. Et en même temps, il y a très peu de groupes, il y a très peu de frontman donc qui arrivent à tenir comme sur album ou à améliorer l'album, hein. Moi je pense à Bruce Dickinson, je pense à Mike Patton, oui toujours Mike Patton, il y a très peu de groupes, même l'ancien frontman de Dilligor, Escape Plane, qui tient bien aussi, Greg Puciato, qui va tenir bien en live, les autres se foirent. Et je crois que l'un des pires, alors déjà historiquement l'un des pires qui tenait pas ses parties, c'était Kurt Cobain, hein, donc ça c'est, vous pouvez aller fureter sur le net, vous verrez déjà tant au niveau vocaliste que même sa gratte, elle est pas calée avec le reste. Et Chino Moreno des Deftones, bon, une fois sur deux, c'est foireux quand même. Hein, voilà. Donc voilà. Donc on va pas lui en tenir rigueur. Sur cet album, bon, qui est constitué de 11 titres, moi ce que je retiens, parce que je retiens toujours mes titres favoris, sur les 11, j'en retiens 7. Ça veut pas dire que les autres sont dégueulasses, ça veut dire juste qu'il y en a 7 qui sortent du lot pour moi. Donc il y a le titre éponyme des Manufactures, Self Bias Resistor, Zéro Signal, que vous pouvez entendre et qui est utilisé dans le film Mortal Kombat d'ailleurs, hein, c'est d'ailleurs dans un combat contre le personnage de Sub-Zero, dans le Mortal Kombat d'origine, voilà, que Zéro Signal arrive. On a Replica avec cette intro martiale et ce cri de guerre d'entrée de jeu de Burton Sebel, Body Hammer, Flashpoint est l'un de mes titres préférés de Fear Factory, qui est Hunter Killer. J'aime beaucoup l'intro qui dure plus d'une minute, qui pose les bases, où on sent qu'il y a une poursuite, une traque contre le reste de l'humanité. C'est top. Et toutes ces parties samples, ces parties prog, sont amenées par Rhys Fulber, qui a participé du coup à l'album de remix précédent et qui va intégrer la formation, voilà, et qui va même produire les albums suivants. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Voilà, c'est à lui qu'on doit ce côté-là. Et il amène un côté dans la construction des morceaux de Fear Factory, ça sera plus présent dans l'album suivant. Il amène un côté épique. Au morceau, et donc c'est top, voilà. Donc des Manufactures, c'est un chef-d'œuvre, ça se pose là. Tout bon fan de musique agressive ou de métal ou de musique extrême se doit d'avoir jeté ou de posséder cet album là ça c'est vraiment un must have. C'est donc en 98 qu'on récupère la bande au Gros Dino avec l'album Obsolete. Je vous avais dit que je la ferais, hein, la vanne avec le Gros Dino. Donc Obsolete qui sort en 98, et ben on reprend la formule précédente et on l'amène dans une autre direction, plus épique, plus mélodique. On abandonne Colin Richardson et c'est directement Rhys Fulber qui va produire l'album avec le reste du groupe. En même temps, on est sur un groupe qui utilise beaucoup la prog, donc forcément, ils sont amenés à tripatouiller leur musique avec des Pro Tools et à expérimenter, parce qu'ils doivent balancer la prog aussi en live. Hein. C'est un peu ce que fait aussi Massisteria. Hein. Massisteria, c'est Fear Factory, c'est l'une de leurs influences, hein, faut pas l'oublier. Et c'est un groupe, Massisteria, qui est très calé sur la prog qui balance en live. Hein. Donc c'est calé au millimètre près. Donc cette obsolète, parce que ça j'en ai pas parlé, j'ai parlé de la pochette de l'album des Manufactures. Toutes les pochettes, que les albums soient nazes ou moyens ou top, il y a toujours un soin qui est apporté aux pochettes du groupe Fear Factory, ça c'est à noter. Et celle d'obsolète ne va pas dénaturer le reste de l'œuvre. On y voit un spermatozoïde, voilà, approché à la loupe, et ce spermatozoïde est agrémenté en fait de circuits imprimés et ainsi de suite. Ça amène le côté IA. Tech, donc j'aime beaucoup ce genre de visuel. Donc 10 titres. Alors, c'est peut-être même les titres les plus connus du groupe, parce que c'est aussi des titres, parce qu'on n'a pas parlé aussi des autres utilisations. On retrouve aussi beaucoup des titres de Fear Factory sur des gameplays de jeux vidéo à l'époque. Des chaînes comme Game One ont repris des titres de Fear Factory, notamment Edge Crusher, parce que moi, il y avait beaucoup de... Alors moi, je suis pas un grand joueur de console, hein, ça vous l'avez compris, mais beaucoup de mes potes de l'époque avaient connu Fear Factory par cette utilisation en fait de leurs morceaux sur des gameplays. C'est aussi les débuts d'internet, etc. Donc moi, comment j'ai pris dans la face obsolète, je l'ai pris par le titre que je vous ai mis en intro pour cette, enfin en intro de cette partie là sur obsolète, parce qu'à l'époque j'étais abonné, ça on pouvait le faire, moi j'étais abonné au club Roadrunner Records et je recevais ce qu'on appelait des CD samplers quasiment tous les... Alors, c'était pas tous les mois, c'était plutôt tous les trimestres, voilà, sur leur sortie. Et dans le sampler de ce trimestre-là, j'avais le High Tech 8, voilà, donc ce que vous avez entendu, un morceau d'une violence avec ce sample en intro, en montée progressive qui déforme la musique pour arriver sur le mur du son. C'est aussi l'un de mes titres préférés de Fear Factory, High Tech 8. Donc, sur ces 10 titres, je retiens le titre d'entrée Choc. Edge Crusher, Smatcher, Dévoreur, vous avez vu qu'au niveau des titres, ça rigole pas, et une version améliorée du Hunter Killer de l'album précédent, Securitron Police 2000, celui-là il est top, je l'adore. Descent, qui est un morceau qui va pousser le côté mélodique en mode plus aérien de Fear Factory, tellement que ça sera un titre qui sera joué sur nos chaînes françaises, notamment sur Nulle Part Ailleurs, parce que Nulle Part Ailleurs à l'époque était une plaque tournante pour la programmation des groupes de métal qui venaient jouer à heure de grande écoute en clair, voilà, des titres, et ça on le devait au responsable de la prog musicale de Nulle Part Ailleurs, qui était nul autre que l'ancien guitariste de Massacra, voilà, groupe de death, brutal death français. Je ferai un épisode hein, de Metal Advisory sur Massacra, parce que c'est un groupe qui est tombé dans l'oubli, et pourtant c'est une pierre angulaire du death. Et ils ont sorti peut-être l'un des meilleurs albums de métal pour moi de tous les temps, qui est Sick. Voilà, donc je vous invite à me partager votre avis sur Sick de Massacra. Donc voilà, donc c'était le guitariste de Massacra qui s'occupait de la prog musicale de Nulle Part Ailleurs. C'est pour ça qu'on y retrouvait les trois quarts du temps du métal. Hein. C'est pour ça qu'on, voilà, pour ceux qui ont vécu les grandes heures de Nulle Part Ailleurs, on avait même eu droit à plusieurs fois du Face No More, notamment à du Face No More en mode costard cravate au Festival de Cannes pour Album of the Year. Voilà. Donc, Descent, High Tech 8, Obsolete et Résurrection aussi, qui est un morceau au top. Toujours 7 titres sur les 10 que je retiens, les autres sont au top. Donc, au final, une formule qui marche plutôt bien. On est clairement sur une première partie de carrière que moi, j'ai intitulée L'Ascension, en fait. Hein. J'ai pas envie de dire qu'on est sur le plateau, mais quasiment. On est sur le plateau de leur carrière. Avec Obsolete, ça explose les charts. Ça tourne beaucoup. Ça fait beaucoup de festoches. Ça tourne à travers toute l'Europe. Aux États-Unis, on vend des disques. Et on vient à se poser la question dans quelle direction on va pouvoir aller Fear Factory ? Parce que là, bien entendu, obsolète n'est pas un décalque de des manufactures, c'est une version, on va dire, légèrement améliorée, entre guillemets, mais on va pas pouvoir refaire la même chose à chaque fois, donc la question reste en suspens. C'est donc en 2001 que débarque ce que j'appelle l'album de la discorde, l'album de la honte, l'album qui a fait que le public a conspué Fear Factory. Donc ça débarque en 2001 et ça s'appelle Digimortal. Bon, la pochette n'est pas la plus inspirée. Donc on va y voir un personnage en silhouette inscrit dans un circuit imprimé. Voilà. C'est pas forcément tip-top, mais ce qu'on a reproché à cet album-là, c'est la même chose qu'on a reproché à Machine Head pour The Burning Red, c'est-à-dire de céder aux sirènes de la mode, de la facilité, aux sirènes du néo-métal. Et c'est pour ça que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ces critiques, parce que, qu'on le veuille ou non, Fear Factory, comme je l'ai dit en introduction, bah, c'est déjà un peu du néo. Metal, parce que ça mélange, donc il n'y a pas de solo, hein, voilà, donc si on prend les caractéristiques du néo-metal, c'est quoi ? C'est que ça n'a pas de solo, ça mélange chant hurlé, chant chanté ou rappé, voilà, et j'ai envie de vous dire, Fear Factory, c'est un peu ça, hein, voilà, donc il n'y avait pas de chant rappé, ça d'accord. Bon, allez, on va pas... Il y a un titre qui ressemble à ce truc-là, qui est le titre Back the Fuck Up avec un featuring d'un des MC de Cypress Hill qui est Biril. Voilà. Bon, le titre il est pas dégueu, hein, je suis désolé de vous le dire. Mais après, c'est un problème. C'est le début des années 2000. Voilà. Le problème, et ça vous pouvez l'entendre dans d'autres podcasts, un podcast que je vous conseille d'ailleurs, hein, alors qui ne produit plus d'épisodes parce que je pense qu'il a déjà tout dit, et qui est de très très bonne qualité et qui n'a rien à m'apprendre, enfin donc où je n'ai rien à lui apprendre, c'est plutôt lui qui a tout à m'apprendre, c'est le podcast Inoxydable, et c'est vrai que le gazier derrière Inoxydable fait partie de cette frange de métalleux qui a grandi plutôt avec le côté New Wave of British Heavy Metal, les premiers albums de Metallica, donc pour lui, le métal, c'est veste en cuir, clous, chevelure, moto, on a ce côté-là en fait, hein, c'est Motorhead, c'est Metallica, c'est Maiden, beaucoup de punk, donc le côté, je mets des baguilles, je me teins les cheveux et je mélange du rap avec du métal, c'est pas passé, voilà, c'est pas passé. Et donc la Discord était déjà venue avec Rage Against the Machine, autre groupe que je chroniquerai. Moi, je suis plutôt un enfant du métal du milieu des années 90, donc c'est pour ça que j'ai écouté autant du hip-hop que de l'électro que du métal, en fait. Donc c'est pour ça que le mélange des styles ne m'a jamais posé problème. Et de toute manière, il faut toujours, pour qu'un style survive, il faut pouvoir piocher ailleurs. Je vous donne un exemple. Si on fait un parallèle avec le cinéma, comment s'est renouvelé le film de zombies ? C'est en mélangeant des choses. Shaun of the Dead, c'est ce qu'on appelle de la zombcom, c'est-à-dire de la comédie zombie. Donc le zombie se marie bien avec différents styles, comme le film de comme le vampire, comme le loup-garou, parce que si on reste dans son carcan, on a vite fait le tour. Donc, à la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire qu'on a dû se poser même le quatuor derrière Fear Factory, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, la suite logique, c'est d'aller vers quelque chose peut-être de plus aéré, intégré peut-être des invités, donc des parties aux phrases et hip-hop, d'assouplir peut-être les passages brutaux, d'aller travailler les textures, les samples, donc logiquement, pour moi en tout cas, aujourd'hui, hein, je fais cet épisode sur Fear Factory, c'est peut-être la seule fois où Fear Factory a évolué, voilà, donc que vous aimiez ou pas. Voilà. Par la suite, ce qu'il adviendra par la suite, il n'y a pas d'évolution. Digimortal, pour moi, c'était l'évolution logique. Et il n'est pas dégueu, l'album. Hein. Moi, enfin, c'est un peu comme le Diabolis in Musica de Slayer. Moi, je vous invite à le réécouter. Je l'ai réécouté, ce Digimortal. Il n'est pas... C'est pas de la merde. Hein. Voilà. Alors... On est clairement en dessous des manufactures et d'obsolètes, mais c'est une progression logique, et c'est comme une série de films, il y en a toujours un qui est moins bon, mais on le regarde parce qu'il fait partie de la série, c'est une évolution logique, et dedans, moi ce que je vais retenir comme titre, What Will Become, Damage, Digimortal, Lynchpin, le Back the Fuck Up, oui, le Back the Fuck Up avec Biril, ben il est top, j'aime Cypress Hill, j'aime Fear Factory, donc le mélange des deux ne devait pas me décevoir et ne m'a pas déçu, et je note aussi ce morceau Bite Block, où on va avoir une voix par moment dissonante, et c'est voulu par rapport au rythmique de base, et ça le fait plutôt bien dans cette espèce de bordel désorganisé, organisé en même temps dans ce morceau-là, donc Digimortal, c'est plutôt fréquentable et ça mérite pas, on va dire, cette réputation merdeuse qu'on lui a collée aux fesses pendant des années. Et c'est là qu'on arrive, bien entendu, au début des problèmes. Parce que qu'est-ce qui se passe en sous-main chez Fear Factory pendant la sortie de cet album Digimortal ? Ben, déjà, il y a des problèmes internes. Et je vais pas vous mentir, alors moi j'ai rien contre Burton Sebel, hein, je le connais pas, il fait pas partie de ma vie, je fais pas partie de la sienne. Mais je l'ai toujours vu comme l'équivalent cinématographique d'un Val Kilmer. C'est un peu une diva. Il a toujours un petit peu créé des problématiques dans le groupe, même si un groupe reste une entreprise. Donc à chaque fois, c'est lui qui était à l'origine des splits, des reformations, des reséparations, c'est toujours lui qui a l'origine du bordel. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'époque chez Fear Factory ? Moi, je me rappelle des interviews qu'il y avait dans Hard Force, Arden Ivy. Bon, généralement, t'avais un Burton Sebel qui partait dans les tours en parlant des Desirata, où il voudrait travailler, avoir le temps de travailler des groupes, des side projects à côté. Ça, on l'a déjà entendu dans d'autres histoires de groupes, hein, les Deftones ou autres, où tu sens que ça part un peu en cacahuète. Et même Mike Patton, à l'époque de Face No More, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça a splitté. Donc voilà, ses désirs d'aller explorer d'autres directions, et un Dino Cazares qui te parle de son attirance pour le milieu du porno. Voilà, ça c'est top. Alors, dites-vous bien que le porno et métal, ça a toujours fait bon ménage. Alors, on va faire une petite parenthèse là-dessus. À savoir le frontman, enfin l'ancien frontman, parce qu'il est décédé, hein, le frontman Wayne Static de Static X, était avec l'une des actrices porno américaines les plus connues, c'est-à-dire Sasha Grey. À côté de ça, les membres de Biohazard et beaucoup de groupes, hein, de New York hardcore, ont été toujours très proches du milieu cinématographique pornographique, et notamment Billy Grazedi dans Biohazard, dans cette anecdote folle dont je vais vous parler et qui est vraie, c'est-à-dire qu'à certains Hellfest où il y avait Biohazard, avant que le groupe passe sur scène, lui, dans sa loge, avec sa petite amie actrice pornographique de l'époque, il tournait des pornos. Hein. Voilà. Donc, juste avant de monter sur scène. Voilà. Et donc voilà, il y a toujours eu cet attrait. Alors, bien entendu, on va pas faire de la sociologie ici même. Hein. Le milieu du porno est très basé sur le tatouage, le piercing, etc. Et aussi qu'on retrouve le tatouage, le piercing dans les musiques extrêmes. Donc, il y a une mixité au niveau du côté extrême de la chose, donc c'est pas anodin. Donc bon, voilà, dans toutes ces interviews de l'époque, donc t'en avais un qui parlait des side projects et l'autre qui parlait de sa passion pour le porno. Donc voilà. Donc tout ça a volé en éclats en 2002, parce que Burton Sebel dit qu'il se barre. Voilà, donc voilà ce qui se passe. Et un an plus tard, donc là, le groupe n'existe plus. Un an plus tard, ça se reforme, mais sans Dino Cazares. Voilà, donc ça, c'est en 2003. Voilà, donc le groupe se reforme et dégage Dino. Ce bon vieux Dino, il s'en va fonder un groupe qui s'appelle Divine Heresy, qui sortira quelques scuds. Bon, pas un grand groupe, mais bon, ça lui permet de s'occuper. Et on a droit en 2003, donc ça, c'est la période que j'appelle la chute. Voilà, qui est quasiment une décennie, hein. On a droit à un nouveau Fear Factory qui comprend Burton Sebel au chant. Christian Hall de Wolbers ne passe de la basse place à la guitare et on va aller rajouter un nouveau membre au groupe et un sacré client en la personne de Byron Strode qui est le bassiste d'un groupe et ben aussi de métal industriel qui s'appelle Strapping Young Lad. Donc lui va s'occuper de la basse et toujours Raymond Herrera à la batterie. Vous l'avez entendu juste avant, parce que j'ai mis un petit extrait, ce Quatuor est à l'origine des deux albums les moins inspirés de la discographie du groupe. Bon, alors le moins pire des deux, il arrive en 2004, c'est Archetype, voilà. Je sais pas comment vous dire, ça sonne comme du Fear Factory, tout est pareil, mais on a l'impression que c'est forcé. L'énergie est forcée. C'est un petit peu, si je devais faire un comparatif, c'est un petit peu comme le, comme cet album de Limp Bizkit qui s'appelle Result May Vary, là, où on a l'espèce de fausse haine surjouée, voilà, par Fred Durst. Ça marche pas. Voilà. Et donc cet Archetype, il y a des morceaux pas dégueulasses, hein. Il y a 2-3 morceaux qui le font plutôt bien, mais il y a une tentative de revenir à Obsolete, mais en moins bien, sans l'énergie. Alors pourtant, l'énergie est déployée, mais voilà, on sent que voilà, c'est moins bien produit. Voilà, c'est un album moyen. Si je devais lui mettre une note, j'ai même pas retenu de titre, hein, c'est pas par fainéantise journalistique ou podcastique, hein. Ça fait très ça démarque, ça fait très début des années 2000, c'est pas top. Voilà, mais c'est rien à côté du pire qui débarque l'année d'après avec l'album Transgression. Alors là, alors déjà dans le précédent, on avait fait des reprises de Nirvana, hein, notamment School à la fin de l'album Archetype. Alors là, c'est reprise sur reprise. On part dans une espèce de pop rock et électro. On dirait un chemin inversé à ce qu'a fait Paradise Lost. Quand Paradise Lost part du Doom Death pour aller vers une espèce de Depeche Mode amélioré, et ben eux, ils font une espèce de cheminement inverse. C'est quand même pas tip top, hein. C'est quand même pas top, hein. C'est en dessous de la moyenne d'une Transgression, c'est pas top, hein. Voilà, là je retiens même pas de titre. C'est quand même en tout cas, quand on voit ça en 2005, on se dit que le groupe il est mort là. Y a pas grand chose à faire, donc c'est pas, vous voyez, il y a que deux albums dans cette période là on est très très loin, on a l'impression quand même que tout ça c'est un beau gâchis. Voilà, on a beaucoup tapé sur Digimortal, il y avait peut-être un truc à creuser. À trop vouloir écouter les fans, à trop partir dans toutes les directions, au final on se retrouve à prendre les mauvaises décisions. Donc dégager Dino, c'est peut-être pas une bonne décision. Peut-être qu'à la rigueur, il aurait fallu prendre une décision qui n'était pas forcément attendue, peut-être dégager Burton, voilà, et garder Dino et prendre un autre frontman, ça peut être possible. Mais en tout cas, c'est pas de bon augure pour la suite des opérations. Savoir avec Fear Factory, c'est un petit peu les feux de l'amour ou le stand Santa Barbara du métal industriel. C'est parce que en 2009, il arrive un truc incroyable que j'ai lu que, enfin, ou que j'ai vu que par deux fois. On a vu ça chez Donset et on voit ça chez Fear Factory. C'est-à-dire qu'en 2009, va exister deux Fear Factory. Alors, oui, un officiel et un non-officiel. Et le non-officiel deviendra officiel pour dégager celui qui était officiel, si vous suivez toujours. Et il est arrivé la même chose à Donset. Donset, quand ça se reforme en 2014, on a Donset et Donset LA. Donc d'un côté, on a le Dunset avec le frontman une nouvelle structure rythmique. Donc, et de l'autre, on a la structure rythmique de l'ancienne Dunset, mais sans frontman. Voilà, c'est top. J'ai envie de vous dire aussi, c'est ce que je dis souvent dans 7ème dimension, et pourquoi pas. Donc en 2009, vous serez ravis de savoir que Burton et Dino se réconcilient. Ah, c'est top, hein, c'est la bromance à nouveau. Et très rapidement, ils annoncent un nouvel album et un nouveau projet. Voilà. Et je vous le donne en mille, ce nouveau projet s'appelle Fear Factory. C'est top. Voilà. Et ce qui, du coup, amène une problématique dans le Fear Factory existant. Parce que Christian Holweber et Raymond Herrera, ben, ils entendent que Fear Factory sort un nouvel album. Et ils se disent, mais... c'est bizarre parce que c'est nous Fear Factory et on essaye de joindre Burton Sebel et on n'arrive pas à l'avoir et justement on n'arrive pas à faire d'album, mais apparemment il y a un album qui sort, donc il va falloir mettre tout le monde d'accord. Alors, il y a toujours une raison à tout ce bordel, pourquoi on en est venu là. Et ben c'est un peu la même raison qui a fait que il n'y avait plus Max Cavalera dans Sepultura. C'est-à-dire que la manager en fait de Fear Factory à l'époque des faits, c'est la femme de Christian Holweber's. Et sa femme et Burton Sebel peuvent pas se voir. Alors c'est plutôt Burton Sebel qui peut pas voir la femme de Christian Holweber's. Et plutôt que de régler ça comme des adultes, hein, parce qu'il faut pas oublier non plus que le métal, c'est un milieu d'hypersensible, voilà, et c'est aussi un milieu de diva, hein. Généralement, je suis bien content d'avoir dans mon réseau de potes quelqu'un comme Air General, qui me raconte souvent que même sur des cover bands, ils croisent d'anciens chanteurs, de groupes de métal, etc., et que les trois quarts du temps, ça se tire dans les pattes, ça chiale, ça dit pas les choses en face, c'est un bordel. Donc, du coup, comme Burton, il a un problème avec la femme de Holweber's, et ben, plutôt que de régler les problèmes, il décide de se barrer à nouveau, voilà. Et que fait une personnalité toxique? On divise pour mieux régner, ben on se réconcilie avec celui qu'on avait dégagé avant, c'est-à-dire avec Dino. Donc c'est pour ça que à un moment donné, quand ils annoncent un album, et ben cet album il tarde à sortir, et même il y a même quelques dates qui sont annoncées, mais ce nouveau Fear Factory ne fait pas de date pour des problèmes de droit, parce que forcément Fear Factory est une entreprise. Holweber's, j'arrive à le dire, et Herrera possède 50% du nom, et Burton et Cazares 50% de l'autre. Donc tout ça se réglera à l'amiable, à coup de paquet de dollars, bien entendu. Ce qui nous amènera à la troisième formation existante de ce nouveau Fear Factory. Et c'est donc qu'on attaque ma partie que j'appelle le retour, qui correspond à l'année 2010, ben, jusqu'à aujourd'hui, au final. Et ce nouveau Fear Factory est composé de Burton Sebel au chant, Dino Cazares à la guitare, Byron Strode, vu que c'est pas un membre d'origine et qu'il était pris plus ou moins à la facture, il reste en place, hein. Et on appelle, et du coup il appelle qui? Et ben son batteur de Strapping New Lad, qui est Jen Hoglan à la batterie. Donc autant vous dire que dans cette structure rythmique, on a quand même deux gros clients, hein. Le Strode et le tandem Strode et Hoglan, ils font pas dans la dentelle, hein. Ça déboîte sévère. C'est vrai qu'on pourrait regretter ce bon vieux Christian et ce bon vieux Raymond, mais on va dire que la relève, elle est quand même assurée. Avec une structure rythmique comme ça, on peut se dire que le Fear Factory nouveau a quelque chose à démontrer. Alors, quelle direction décide de prendre ce nouveau Fear Factory? Est-ce qu'on repart sur le côté Digimortal? Est-ce qu'on repart sur un côté, un espèce de pop-rock trafiqué un peu flingué? Eh ben non, on essaye de donner une espèce de suite logique à des manufactures, et autant vous dire que ce Mechanize en 10 titres, eh ben ça le fait plutôt bien. Bon, à noter quand même, pour moi, Fear Factory, c'était souvent un groupe qui, dès le premier titre, donnait le ton. Bon, à partir de cet album-là, Mechanize, et jusqu'au suivant, les premiers titres, ils sont oubliés. Hein, je vais pas vous mentir. Moi, les deux premiers titres de cet album-là, ils sont interchangeables. Et vous pouvez les remplacer avec tous les titres des albums, des débuts des albums suivants, c'est pareil. Voilà. Donc, et les surprises arrivent. Notamment, il y a deux titres pépites. Donc, c'est pour ça que j'en ai utilisé un pour cette partie-là. Pour moi, il y a Designing the Enemy, qui renoue avec le côté un peu épique, le côté aussi un peu grind du groupe, et surtout Final Exit, qui est le dernier titre, qui nous avait manqué. Hein. C'est le côté qu'on a sur des titres comme Descent, Resurrection, Hunter Killer, Securitron. Voilà, ce côté très aéré, avec différents moments, titres à rallonge, ça manquait. Voilà, donc ça manquait. Après, on peut rajouter dans la boucle des titres très efficaces comme Fear Campaign, Power Shifter et Christsploitation, voilà, qui est plutôt cool. La pochette est dantesque, hein, c'est le cas de le dire. Hein, le Fear Factory est formé avec de la dentition façon mélange homme-machine. Bien entendu, je vous ai épargné les paroles. Hein, qu'est-ce que ça raconte hein, toujours, bah, toujours pareil. Hein, cette lutte humain-machine, ou du point de vue de la machine, ou du point de vue de l'humain, donc on change les points de vue, etc. C'est toujours des albums concept, mais c'est toujours la putain de même histoire, hein, quelque part. Et on peut se dire très rapidement que ce nouveau Fear Factory est lancé sur de bons rails, c'est de nouveau énergique, on sent pas que la brutalité est forcée, la prod s'est bien produit, on a toujours Rhys Fulber, il est toujours là, hein, il est toujours resté là dans le, pour les parties prog samplées, on peut qu'être confiant avec l'album suivant, The Industrialist. Eh ben, bon, je vais vous le dire de suite, The Industrialist, je l'aime pas, j'y arrive pas, j'ai essayé de l'écouter, ça prend pas pour moi, j'ai l'impression d'écouter 10 fois le même titre sans envie, il y a beaucoup de problèmes sur cet album, bon, alors déjà, c'est un problème de batterie, à noter que Mike Heller va remplacer Jen Oglan, qui sera ensuite remplacé par John Sinclair, qui chacun joueront des parties. Au final, tout ça est remplacé par une boîte à rythme à la prod, et c'est là qu'on commence à rentrer dans le dur, dans le mauvais côté de la carrière de Fear Factory, c'est-à-dire ce que j'avais annoncé en préambule dans l'épisode, c'est-à-dire qu'à trop raconter le grand remplacement des humains par les machines, c'est un peu ce qui se passe dans leur musique. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est presque une malédiction, c'était presque annoncé, c'est une mise en abîme, et même si on peut retenir des titres comme New Messia ou God Eater, ça sent quand même le truc rapiécé, et puis en plus ça change pas d'un iota quoi. Enfin, autant avec Mechanize on avait un sursaut, on sentait qu'il y avait, il y avait un positionnement, etc. Bon, celui-là je suis désolé hein, peut-être qu'il y en a qui l'aiment et je peux le comprendre hein, les goûts et les couleurs sur pareil, maintenant en étant un peu objectif, c'est quand même pas leur meilleur album, c'est pas le plus nul hein, ça arrivera pas au niveau d'un Transgression ou d'un Archetype. Bon, non, quoique même, je pense qu'Archetype, c'est mieux que ça. Enfin, bon, c'est quand même pas top, hein. Il leur faudra 3 ans pour à peu près fixer, on va dire, au moins la formation. Donc, c'est-à-dire qu'on a un ex-Static X qui débarque à la basse en la personne de Tony Campos, et du coup, on a un client. Donc là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Rhys Fulber, qui est de nouveau à la prod, donc il fait pas que les samples, hein, qui s'occupe de produire. Donc, on a quasiment une équipe. Vous voyez bien qu'à la batterie, j'ai pas mis de nom. Hein. On sait plus trop qui fait quoi. Hein. On sent qu'il y a une tendance à, et même au niveau de la pochette, de la com, des certains titres qui sont postés, on a un petit retour époque obsolète qui est pas pour nous déplaire. Donc, l'album s'appelle Genexus. Et on est quand même beaucoup mieux que sur The Industrialist. C'est différent de Mechanize, je dirais que c'est moins bon, mais c'est pas déshonorant. Moi, de ce que je peux retenir à ce niveau-là, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6 titres, c'est quand même pas mal. Hein. Anodized, Dielectric, Soulhacker, Genexus, donc le titre éponyme, Church of Execution. Bon, il y a beaucoup de facilité, bien entendu, hein, les titres rentrent dedans, hein. Des petits samples façon philharmonique déstructurée, notamment pour Dielectric, mais et puis Regenerate, qui est plutôt intéressant, voilà, dans sa structure. Donc c'est pas dégueulasse. C'est quand même... bon, c'est quand même pas ouf, hein. Moi, à ce moment-là, je l'avais plus ou moins acheté les yeux fermés. Je m'en suis vite détourné de cet album, hein. Bon, on va clairement se le dire, on est quand même très très loin de Démanufacture et d'Obsolète, hein. Voilà, donc ça... Mechanize, pour moi, ça resterait leur 3e meilleur effort, voilà. Si je devais faire un classement, de toute façon, je vous donnerai un classement. C'est vrai que généralement, je le fais pas trop. Enfin, je le fais plus trop ou j'oublie de le faire, mais là, je vous donnerai un classement. Bon, Genexus, c'est bon, si on devait rendre la copie, bon, allez, c'est un 13 sur 20, mais c'est pas ouf. Et puis après, plus de nouvelles de notre Fear Factory bien-aimé. Et je vous le donne en mille, on attaque la quatrième partie. Alors là, c'est la débandade, hein, c'est vraiment la tristesse. De nouveau, Burton Sebel va quitter le groupe, parce qu'entre 2015 et 2020, il a déjà fondé un nouveau groupe qui s'appelle Ascensor of the Watchers, qui est une sorte de metal indus symphonique. Bon, on va dire, vous prenez le titre Descent, et ben voilà, c'est à peu près le genre de Ascensor of the Watcher, donc il va pousser un peu plus la vocalise. Burton Sebel, c'était quelqu'un qui avait un look un peu électro, hein, toujours, hein, c'est-à-dire avec ses cheveux mi-longs, un peu rasés, etc. Il avait toujours... Donc, Ascensor of the Watcher, ça lui colle plutôt mieux, ça lui va mieux, en tout cas, c'est plus cohérent. Donc il plante le groupe alors que le groupe est dans une impasse avec ce nouvel album qui est annoncé depuis quelques temps qui s'appelle Aggression Continuum et il les plante et c'est un peu la tristesse parce que même si, parce que j'en ai pas parlé, hein, la période glorieuse c'est sur Roadrunner Records, entre temps c'est sur un petit label les autres albums et il y a que à partir de Mechanize qu'on atterrit chez Nuclear Blast, même si on est chez Nuclear Blast, cet album c'est la tristesse. Imaginez bien que les parties chants ont été plus ou moins enregistrées. On n'a pas trop de batteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et le chanteur se barre et on fait financer l'album pour qu'il ait un meilleur son via des financements participatifs. Donc on fait appel à du Kiss Kiss Bank Bank. C'est quand même pas top, hein, quand on y regarde bien. Moi, ça, c'est un peu la tristesse. Hein. Quand on pense au groupe de Démanufacture et d'Obsolète, et qu'on arrive en 2021, et que le groupe s'est fait financer l'album par la fanbase, c'est quand même un peu la tristesse. Hein. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai tenté de l'écouter, hein, cet album. C'est un The Industrialist number two, voilà, c'est une créature de Frankenstein le truc, hein. Donc c'est les voix enregistrées de Burton Sebel, un peu trafiquées parce que le mec fait plus partie du groupe, sur lequel on a posé de la boîte à rythme, sur lequel le gratteux en titre, hein, parce que c'est un petit peu lui, hein, la tête pensante maintenant, a essayé de donner une homogénéité à cet ensemble, voilà. Bon, c'est pas ouf. Alors après, tour de force, ça sonne quand même, hein, on va pas se mentir. Hein, voilà, ça quand même, ça tient la route. Si vous découvriez Fear Factory avec cet album, vous pourriez même dire que c'est plutôt pas mal. Quand on a connu les autres albums, bon, on va se dire que, bon, voilà. Moi, c'est un petit peu la même Kaamelott. C'est comme écouter le dernier album d'ACDC ou 72 Seasons de Metallica. Bon, voilà, il n'y a plus l'envie, il n'y a plus le... Voilà, donc ça sort un album vraiment pour sortir un album et pour pas que... Tu sais, c'est un petit peu comme quand on adapte une énième fois une franchise pour pas perdre les droits, quoi. Et en plus, on enfonce le coup en sortant un album de remix de cet album qui est déjà un patchwork qui s'appelle Recoded, hein, que vous vous doutez bien que voilà, vous voyez bien l'intérêt de la chose. Et de toute façon, c'est une triste période pour Fear Factory parce que on sent bien que le Dino Cazares essaye de comment dire, de surfer sur ce qui a déjà été produit, de le réenregistrer. On sent qu'il n'y a pas la thune pour produire de nouveaux albums, donc on fait à partir de ce qui est existant. Donc on a un Aggression Continuum qui est un patchwork, un Recoded qui est un remix du patchwork, et on réenregistre ou on remixe les albums précédents, notamment The Industrialist, donc on a appelé Re-Industrialized. Voilà, donc on est même plus dans l'album, on sait même plus ce que c'est comme catégorie d'album. Et à côté de ça, a été annoncée une nouvelle, donc ça sera, si je comptabilise bien, quasiment la cinquième formation de Fear Factory. On va chercher un Italien de 35 ans, un peu touche-à-tout, il est un peu chanteur, il est un peu guitariste, un peu claviériste, il fait un peu de la prod, il fait un peu tout, on va le mettre au chant. Donc il s'appelle Milo Silvestrio, Dino Cazares à la gratte, toujours Tony Campos à la facture et du coup à la basse. Et c'est retour de Mike Heller, voilà, qui avait remplacé Jen O'Glan et qui avait été remplacé par les machines et qui revient dans la boucle pour ce Fear Factory QV 2024 qui apparemment aurait un album qui devrait émerger si vous allumez un cierge. Voilà, donc c'est à peu près ça. Donc un Fear Factory nouveau, avec sûrement un album dans le sac à dos, et qui est annoncé dans différents festivals, que ce soit au Hellfest ou les différents festivals, les Summer Festivals comme on les appelle. Il y a quelques dates aussi de tournée avec d'autres groupes, et notamment j'ai vu des têtes d'affiche en fait avec Suicidal Tendencies aussi. Voilà, donc effectivement. C'est quand même pas glorieux tout ça. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ce groupe ? Hormis le fait qu'il ait cassé le game à jamais avec deux albums, et notamment des manufactures en 94, ben, c'est que l'ultra spécialisation dans un genre ben, vous enferme très rapidement. C'est ce qui s'est passé avec Fear Factory. Hein. Et dès qu'on a voulu prendre une autre direction, ben, on s'est mis la fanbase à dos. Donc voilà, donc déjà, c'est de se dire qu'en étant, en ayant une formule ultra spécifique, et ben forcément c'est très compliqué d'en sortir. Deuxième chose qu'il faut retenir, et ben que c'est tout ça, c'est un beau gâchis. Parce qu'au final, si on avait opté après Digimortal pour le son qu'on a sur Mechanize, peut-être qu'on aurait pu s'en sortir. Voilà. Et conserver le bateau à flot et avoir une certaine carrière assez homogène. Mais la problématique aussi, c'est que dedans, en fait, on a une hydra de tête, hein, c'est Burton Sebel et Dino Cazares, et quand l'un s'en va, l'autre reste, et quand l'autre reste, l'un s'en va, et c'est un peu le problème. Et je ne crois pas que Dino Cazares ait résolu le problème en changeant le frontman. Je pense que c'est bien trop tard. Il aurait fallu opérer ce type de changement en amont. Mais en tout cas, ce qu'on va retenir, c'est ce qui reste, c'est la musique. Et je pense que beaucoup de groupes tueraient pour livrer un album comme des manufactures. Voilà, c'est à la fois leur plus grand fait d'armes et aussi leur malédiction d'avoir sorti cet album assez rapidement. Mais ils resteront dans l'histoire du métal, notamment pour des manufactures. Et rien que pour ça, je pense qu'ils ont, ils ont accompli ce que tout musicien, ce que tout groupe de musique souhaite réaliser dans sa vie, c'est-à-dire marquer la musique en elle-même de son empreinte. Et là, le pari est plutôt réussi. Donc au niveau de mon classement, moi, qu'est-ce que je mettrais en tête ? Ben, bien entendu, vous l'avez compris, des manufactures, hein. En seconde position, Obsolete, hein, qui est sa compi conforme améliorée derrière. En troisième, je mettrais Mechanize, pour saluer quand même l'effort de ce retour du gros dino aux manettes. En quatrième position, je mettrai Digimortal, parce que je l'aime bien cet album, il n'est pas dégueulasse, hein, et je vous invite à le réécouter. En cinquième position, je mettrai Genexus, et dans le fond de la cuve, alors dans le meilleur du mauvais, je mettrai Archetype, ensuite The Industrialist, et le prix du pire album, on va dire, se le dispute entre Agression Continuum et Transgression. Mais j'aurais plus tendance à dire, quelque part, qu'Agression Continuum, malgré son côté Frankenstein, s'écoute mieux que Transgression, qui pourtant a été composée par des humains. C'est ça tout le grand paradoxe, hein, de Fear Factory. Et bien entendu, je vous ai évacué les albums de remix, la ressortie de la démo, et ainsi de suite. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Fear Factory. Alors bien entendu, j'aurais pu en dire un peu plus, j'aurais pu rentrer, bien entendu, peut-être qu'il me manque aussi des choses, hein, un peu plus de technique musicale, etc. Donc au niveau de l'analyse de ce que fait le groupe, mais je me positionne toujours du côté de la réception de l'auditeur, de celui qui apprécie la musique pour ce qu'elle est. Donc et notamment Fear Factory, c'est du matraquage, du matraquage cybernétique, voilà. Donc on peut dire qu'ils ont inventé avec des manufactures le métal cybernétique, le métal du 21e siècle, et qu'ils ont influencé tous les groupes que j'ai cités, tous ces courants-là. Donc ça, c'est pas rien. Donc on aurait pu rajouter des choses, peut-être que j'ai été méchant sur des albums, que j'aurais plus dû les écouter, donc ça, n'hésitez pas en MP, en commentaire sur vos plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux, à me partager le fond de votre pensée sur Fear Factory. J'essaie aussi de faire des épisodes moins longs, plus digeste, voilà, entrecoupé de morceaux musicaux. Et quelle est la suite des opérations ? Eh bien, pour ceux qui suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, je l'ai annoncé, l'été arrive et il est temps de s'attaquer à un groupe aussi dont dont personne ne parle et qui a influencé beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes de genres et de sous-genres, un groupe multifacette, un groupe qu'on appelle, qu'on estampille, un groupe de crossover en provenance de Venice Beach. Je parle bien sûr de Suicidal Tendencies, de la bande à Mike Muir, donc de la déferlante de gratte. Donc ça, c'est pour le mois de juin, c'est prévu pour le prochain épisode de Metal Advisory. Et pour conclure cet épisode, comme j'en ai l'habitude, on n'oublie pas, si tu trouves que c'est trop fort, eh bien c'est peut-être que t'es trop vieux, gars. Merci pour votre écoute.
Metal Advisory, le podcast explicite 100% métal.